a-t-elle souri en caressant le pelage couleur sable. « Tu en veux un tout de suite, Jules? Cadeau de la maison !»«
Ah, il ne vous répondra pas, il est en service. »
Ma gorge s'est nouée. Ce couple indissociable qui ne ferait que passer dans ma vie m'inspirait un mélange d'exaltation et de tristesse qu'elle aperçut dans ma voix quand je lui ai demandé pardon.
« Oui, il le vit très bien, » m'a-t-elle rassuré. « Il ne mange que lorsque je lui enlève son harnais. »
Ça doit être un sacré dressage. C'est surtout sa fierté. Il est responsable de moi. Et il y avait dans son ton la même fierté qu'elle prêtait au labrador. Un terrible coup de blues m'est tombé dessus. Je n'avais jamais été responsable de personne, moi. Ma mère est un roc, mon père a coupé les ponts, et les femmes de ma vie n'ont pas voulu d'enfants. Le labrador me fixait dans les yeux. Un accès de jalousie dérisoire pour ce garde du corps épanoui m'a fait détourner le regard vers les seins de sa maîtresse. Des seins sublimes qui défiaient la gravité et qui avaient pourtant l'air vrais, répercutant chaque mouvement des doigts pour sortir la carte bleue de son portefeuille et chercher à tâtons la note de taxi qui en était tombée. Je n'avais pas eu le temps de m'extraire de mon stand pour la ramasser. Le chien, à l'affût de ses moindres gestes, avait déjà poussé du bout de la patte le justificatif jusqu'aux ongles de sa protégée. « Alice Gallien », disait la carte bleue sur mon comptoir. J'ai eu le cœur serré en pensant à la chanson de Brel. « Laisse-moi devenir l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. » Moi qui passais mon temps à fermer les yeux sur ce que les gens sérieux appellent la « vraie vie », j'aurais tant voulu soudain servir de regard à une femme comme elle. Tout ce qui était en mon pouvoir dans l'immédiat, c'était de faire durer au maximum l'emballage des macarons pour profiter de ses seins turquoises et de la jubilation déconcertante qui émanait d'elle. Mais les froissements ralentis du papier l'ont alertée. Elle a posé deux doigts sur les aiguilles de sa montre sans verre. «
Il faut qu'on aille à l'embarquement, » m'a-t-elle informé avec une gentillesse navrée. « Le paquet cadeau n'est peut-être pas indispensable ?»
Spontanément, j'ai répondu à ma décharge que je la trouvais très belle.
« Merci de votre franchise, » a-t-elle souri. « D'habitude, les hommes commencent par faire des compliments à Jules. »
La mention de son nom, le chien m'a dévisagé avec une assurance dissuasive de mâle dominant, mais c'est probablement l'érection que je comprimais sous mon comptoir qui m'incitait à l'anthropomorphisme.
« C'est une idée où vous ne ressemblez pas à votre voix. Il est toujours très gentil avec les commerçants, mais là, je le sens tendu. »
Je me suis décrit en faisant l'impasse sur le calot vert et le gilet rayé. J'ai dit que j'étais né en Syrie de parents inconnus, adoptés par un couple de Français.
« Je vois. »
Je lui ai donné ses achats, sans savoir si ce mot déroutant dans sa bouche signifiait qu'elle compatissait ou bien que son chien était raciste.
« Le 10h25 pour Nice, il est prévu à l'heure ?»
J'ai répondu « Oui, salle 20 », comme l'affichait le tableau en face de moi. Je l'aurais bien accompagnée, mais la file d'attente s'allongeait derrière elle et j'avais déjà eu un avertissement de mon chef de site le jour où il m'avait pris en flagrant délit de travail au comptoir sur un traité d'astrophysique. Même quand je n'ai pas de client, je dois rester empressé, dispo, vacant. C'est contractuel. Manger, lire ou téléphoner pendant mes heures de service sont des fautes graves entraînant le renvoi sans préavis en cas de récidive. Et sans ce salaire fixe tombé du ciel, vu la crise qui sévit dans l'édition d'ouvrages scientifiques, je ne vois plus trop comment je paierai mon loyer. J'ai fait signe à un Air France en promenade dans sa chemisette à cravate. Je lui ai confié ma délicieuse cliente, j'ai encaissé sa carte bleue en échangeant deux phrases et je l'ai regardé s'éloigner, avec un pincement au cœur qui s'est dilué dans l'impatience des voyageurs suivants.
C'est pas trop tôt. Quelle variété vous avez dans l'étude 6 ?
Tout en récitant mécaniquement mes parfums à un congressiste badgé IBM, je ressassais nos derniers mots. « Bon voyage, mademoiselle. La fraise Tagada est un parfum du moment. On me l'a retiré ces jours-ci, mais je peux faire une demande. Vous revenez bientôt ?»«
J'espère. »
Je n'avais pas eu l'opportunité de m'enquérir davantage. Et à quoi bon ? Il y avait certainement un homme dans sa vie. Elle avait évoqué les dragueurs dans mon genre avec une indulgence sereine de femme en couple. Le regard absent et le sourire conforme au règlement, J'accomplissais mes rituels de vente avec un abattement résigné qui n'est pas du tout dans ma nature. J'ai toujours fait contre mauvaise fortune bon cœur. Amoureux trahi, cerveau pillé, victime aussi dépourvue de frustration que d'ambition vengeresse, ces deux moteurs essentiels à la vie sociale, je me contente habituellement d'être bien dans ma peau, sans raison personnelle. Un joli crépuscule, l'intelligence des bactéries, une cantate de Bach, le savoir-faire d'une prostituée, l'odeur du chèvrefeuille sur l'appui de ma fenêtre, les mystères insondables du Big Bang. Tous ces plaisirs infimes, sans effet secondaire, qui, pour un cœur à mobilité réduite comme le mien, remplacent avantageusement le bonheur et ses affres. Pourquoi le désir éprouvé pour une vraie handicapée me rendait-il soudain si triste, si honteux du confort à court terme de ma petite vie merdique? J'avais commencé très fort pourtant. On me prend généralement pour un produit de l'immigration, mais je suis avant tout un projet littéraire. J'étais âgé de quelques heures quand le concierge de l'ambassade de France à Damas, en rentrant ses poubelles, m'a découvert au fond de l'une d'elles, visiblement déposée après le passage des éboueurs. Éliane de Frège, l'épouse de l'attaché culturel, a fait des pieds et des mains pour m'adopter, quitte à me sortir de Syrie par la valise diplomatique. Respectueuse de mes origines, elle m'a appelé Zibal, de l'arabe Zibala, poubelle. Pour le reste, son imagination a comblé le vide. Elle m'a donné comme père un chef bédouin ayant répudié sa femme pour adultère, laquelle, chassée de la tribu, m'avait destiné à un sort meilleur en me confiant à la République française par la voie des ordures ménagères. Zibal, l'enfant de la poubelle, a reçu le prix Femina quand j'avais 13 ans. Les critiques s'extasiaient sur mon personnage. Ce bédouin de Sciences Po, qui, désireux de mériter le sacrifice de sa génitrice et la générosité de sa mère adoptive, finissait, diplôme en poche, par retourner à Damas, renverser Assad et instaurer un embryon de démocratie sans faire le jeu des frères musulmans. Il mourait en héros, à la page 438, laissant 3 enfants dont une fille qui se jurait d'achever un jour son œuvre en devenant ambassadrice de Syrie à Paris. Dans la réalité, cette voie royale s'était arrêtée sur les bancs de l'université. Ensuite, Zibal de Frège avait trahi ses promesses et fait mentir son auteur. J'étais resté dans l'ombre, je n'avais jamais quitté le sol français, je m'étais fait avoir par tout le monde et je laisserai notre nom s'éteindre. Pas de quoi inspirer un tome 2. Les aboiements m'ont fait sursauter.
« Attention, merde !»
a pesté le client dont j'avais laissé tomber l'assortiment. Carton vide à la main, je tendais l'oreille vers le fond du hall 2.
« Jules !» a hurlé Alice. « Mais laissez-le enfin, arrêtez !»« Vous me remplissez un autre ballotin, oui ou quoi ?»
J'ai fait signe au connard de se taire. Les cris de la jeune femme ont redoublé sur fond d'aboiement. Sans réfléchir, j'ai jailli hors du stand pour courir vers la salle 20. L'enregistrement de la navette pour Nice évoquait l'ouverture des soldes aux Galeries Lafayette. Me frayant un chemin dans la bousculade, j'ai vu 2 agents de comptoir qui poussaient Jules dans une cage après lui avoir retiré son harnais, tandis qu'un 3e répétait à Alice d'un ton de névropathe que l'avion était complet et que, sur décision du commandant de bord, tous les animaux devaient voyager en soute.
« Mais pas lui, monsieur, c'est un chien guide. Regardez son médaillon, ses papiers. La loi européenne de 2008 m'autorise à le garder en cabine. »«
Pas quand l'avion est plein, c'est le commandant qui décide. »
J'ai dit non. L'hystérique s'est tournée vers moi. Son sourcil furieux s'est haussé goguenard face à mon calot pistache et mon gilet rayé.
Qu'est-ce qu'il veut, la durée ?
Faire respecter le règlement.
Mademoiselle vous dit que la loi européenne de « Tu retournes à ton stand, toi, ok ? J'ai assez de problèmes comme ça. »
Et ce n'est qu'un début si tu le prends sur ce ton.
Non mais tu cherches les emmerdes ?
En guise de réponse, je l'ai soulevé du sol par sa petite cravate. Toutes les injustices et les humiliations auxquelles j'avais toujours opposé ma sérénité de bédouin s'étaient soudain concentrées, projetées sur ce teigneux buté que je secouais au rythme de ma phrase.
« La loi européenne de 2008 prévaut sur la décision du commandant de bord. Répète et présente tes excuses ou j'appelle un paf qui te collera une amende pour discrimination et refus d'obtempérer. Trop tard. Jean-Mi !»
Le policier de l'air et des frontières, avec qui je refais le monde 3 fois par jour à la pause clope, arrivait aux nouvelles, mâchoire en avant.
Je lui ai expliqué la situation. Pendant